Nous sommes aujourd'hui au domicile de Monsieur Amadou. Monsieur Amadou se défend d'être un kabbaliste, mais je prétends qu'il en est un. Il est l'auteur d'un ouvrage fameux sur la parapsychologie qui a été publié chez De Noël il y a déjà plusieurs années, et chez Payot un ouvrage sur l'œuvre de Mesmer. Le titre de cet ouvrage est « Le magnétisme animal ». Monsieur Amadou nous parlera tout à l'heure de ce lien qu'il établit entre ce magnétisme de Mesmer et la libido de Freud. Et quand je suis venu le voir dans le but de travailler à cet enregistrement, il m'a tout de suite conseillé de lire un ouvrage qui fera finalement le prétexte de notre conversation d'aujourd'hui. C'est l'ouvrage de M. David Bacan, Freud et la tradition mystique juive. Cet ouvrage replace Freud dans la tradition mystique juive. Mais avant d'en arriver à ce point plus particulier de notre entretien, je pense que nous pourrions nous entretenir, Monsieur Amadou, si vous le voulez bien, de la place que tient la vie sexuelle et l'amour dans la tradition mystique juive. J'ai cru deviner une espèce de lien entre l'attitude des gnostiques et l'apparition de la Kabbale. Il y a là une espèce de révolte et en même temps de passion qui manque dans les textes, soit dans le Nouveau Testament, soit dans le Talmud, une espèce de révolte liée à la vie intime, profonde et sacrée des êtres, qu'il semble que les gnostiques et la Kabbale sont arrivés à inclure dans la pensée chrétienne et dans la pensée juive. La seule véritable différence, au fond, entre les hérétiques chrétiens et les juifs est que suffisamment souple pour ne pas s'opposer aux interprétations qui ont été faites des textes sacrés, la tradition du peuple d'Israël a fini par absorber la Kabbale et le Zohar, au point qu'aujourd'hui, ces enseignements font partie intégrante de la pensée juive. Cette absorption s'est d'ailleurs faite sans véritable conflit idéologique. On ne connaît pas de guerre religieuse au sein du peuple d'Israël. Le subterfuge qui a présidé à cette avalisation, car il s'agit bien d'un subterfuge, a consisté à donner force de loi religieuse à des racontars plus ou moins ésotériques qui traînaient depuis on ne sait pas exactement depuis quand dans l'esprit des nomades de Palestine et de Canaan. C'est un peu comme si la religion anglicane avait absorbé les romans de la table ronde. Rien n'empêche en effet de tenir la Kabbale pour une manière de Graal juif. C'est précisément dans la mesure où ces récits, ces images, ces paraboles, ces préceptes de magie ne sont pas datés qu'ils ont pu être absorbés aussi facilement. Il n'est pas d'homme qui, à la fois cherchant à se donner une explication cohérente de sa présence en ce monde et sachant qu'il ne la trouvera pas, n'ait un jour songé à s'en remettre au texte d'une Kabbale quelconque, quitte à ne pas tenter d'en prendre sérieusement connaissance. La pensée juive, à mon avis, a su prendre de telles dispositions d'esprit en considération et fournir à ceux qu'un sentiment religieux ne soutenait pas assez une série de préceptes et même de jeux ésotériques aux possibilités innombrables. Si l'opération a réussi, c'est aussi, il est vrai, que les cabales sont infinies. La cabale est une boîte sans fond, un outil d'illusionniste qui, dans la mesure où on ne parviendra jamais, parce qu'on ne le souhaite pas, à déceler son mystère, à la fois apporte la preuve de l'existence de Dieu et l'escamote. Par sa seule existence, la Kabbale est une occasion de nous rendre compte que si la présence d'une entité divine est indispensable à l'équilibre de l'esprit humain, elle l'est d'autant plus qu'elle demeure improuvée. Je viens de dire tout cela, de le lire, je ne le cache pas, à nos auditeurs, pour que vous me contredisiez, Monsieur Amadou. Alors, que pensez-vous d'abord de mon rapprochement avec les gnostiques et à ce rapprochement que j'ai fait entre, disons, les textes de Basilide et puis les premières apparitions de la Kabbale dans le Zohar?
Je pense que la Kabbale est en effet une forme de gnose. Je crois qu'il serait injuste de la rapprocher et encore plus de la confondre avec ces formes de gnose un peu aberrantes qu'on appelle les gnosticismes. Et je dois dire que, pour reprendre le problème tel que vous l'avez posé, et en laissant peut-être de côté un certain nombre de prolongements sur d'autres aspects de la Kabbale, je voudrais revenir à celui que vous avez souligné, dont vous souhaitiez que nous parlions, c'est-à-dire la place que la Kabbale attribue ou restitue à la sexualité, voilà, dans une certaine quête mystique. Je pense que c'est bien, bien là le point essentiel, une certaine quête mystique selon la tradition judaïque. Alors, je pense qu'il faut peut-être tout de suite constater deux faits. D'abord, un fait d'histoire naturelle, et ensuite un fait d'histoire des religions, ou même d'histoire de la pensée. Un fait d'histoire naturelle, vous avez cité tout à l'heure Mesmer, et je pense qu'à propos de Mesmer, on pourrait rappeler que la nature est sexualisée, que la nature se caractérise par la sexualité. Et on peut ici rapprocher Mesmer de Freud, lequel ne cachait pas ses références philosophiques, quand il écrivait par exemple « L'éros de Platon présente quant à ses origines, quant à ses manifestations et à ses rapports avec l'amour sexuel, une analogie complète avec l'énergie amoureuse, avec la libido de la psychanalyse. » Or, chez Freud, c'est la libido, dans le magnétisme animal, c'est le fluide de Mesmer, et dans ce fluide, c'est bien Eros qui est au travail, c'est bien Eros qui ne veillait pas sur la pomme de Newton que sur le fruit que Ève a croqué. C'est Eros, en effet, qui, comme le disait Yankelevitch, représente le raptus amoureux profond et général comme la nature, celui qui porte Iseut et Tristan vers l'extase aveugle et vers la mort, après qu'ils ont bu le philtre enchanté. Cet Eros cosmogonique, n'est-ce pas l'amour à l'allemande? Il s'appellera ici vouloir vivre, là germaine, ailleurs encore libido, et comme chez Frédéric Schlegel, il tente à confondre les sexes dans la chimère d'un androgyne, ainsi chez les métaphysiciens, il prétendra confondre les individus dans l'élan d'une volonté spécifique. Voilà une page de Yankelevitch. Et je pense qu'en effet, Eros travaille dans la nature entière, qu'il la travaille toute la nature, qu'il est la nature, qu'il est le magnétisme, qu'il est la libido, que la nature est magnétique, que la nature est libidique, c'est-à-dire que le magnétisme est son être et qu'elle forme un tout dont les parties sont enchaînées par une vertu qui est la vertu précisément d'Eros. Ça, c'est le fait d'histoire naturelle. Et il y a un deuxième fait qui est un fait d'histoire des religions et qui est intimement lié au fait d'histoire naturelle que je rappelais à l'instant, c'est qu'entre la mystique, quel que soit le sens, ou l'un des sens très nombreux qu'on peut donner à ce terme, et la sexualité, quel que soit également le sens précis, sens étroit, ou le sens large qu'on donne à ce terme, il y a des rapports. Et ici, on pourrait donner, accumuler l'exemple d'exemples qui sembleraient hétéroclites du fait que précisément on les emprunterait à des domaines où mystique et sexualité seraient pris dans des sens différents. On pourrait ainsi citer les orgies helléniques, les orgies des gnostiques dont vous parliez tout à l'heure, les techniques du yoga, de certains yogas tout au moins, l'éloge de la continence dans certaines religions, la prostitution sacrée, les rites initiatiques de tous ordres qui ne séparent pas l'initiation sexuelle de l'initiation physique, les mariages dits spirituels, les exercices ambigus de Molinos, par exemple, la quête théosophique de la sagesse, la génération selon Maître Eckhart du Verbe en nous, la grossesse divine de Madame Bruyère dans son monastère de Solesmes, la castration des sectaires russes, les bacchanales, l'attente de Notre-Dame-Saint-Esprit, les traits efféminés des aspirants chamans, le symbolisme des noces, et plus généralement encore le vocabulaire érotique des plus grands contemplatifs chrétiens. Bref, on peut, je crois, constater par une foule d'exemples qu'entre mystique et sexualité, il existe des liens.
Dans un très bel ouvrage « Métaphysique du sexe », M. Evola a fait un compte détaillé de toutes ces mystiques et du rôle qui joue la sexualité. Mais, si vous voulez bien, revenons-en à la parole juive. Il me semble, enfin je crois... que déjà, dans le Talmud, tout de même, il en est question. Le croiser et multiplier est un commandement, procréer une obligation, le célibat même un péché. Est-ce que je ne m'abuse?
Absolument pas.
Pour l'homme de la Kabbale, alors, le mariage terrestre est à l'échelle humaine la réalisation symbolique et initiatique de l'union de la Shekhinah et du Saint béni soit-il. Alors, voilà ma question, ma première question. Quelle est la différence sur cette question essentielle de la sexualité entre la parole talmudique et puis la Kabbale? Est-ce que c'est bien cela ou non qui sépare ces deux paroles et ces deux messages?
Je pense qu'on pourrait dire en bref, et sous réserve de beaucoup de nuances qu'il faudrait apporter, que la Kabbale, par ce que vous avez appelé un subterfuge, on pourrait peut-être discuter le terme.
Oh oui, j'en suis sûr.
Introduit ou réintroduit dans la tradition mystique juive une dimension sacrée de la sexualité, une certaine forme d'érotisme qui semble absente de la tradition juive antérieure ou parallèle.
Bien, oui, donc, ce que je disais par subterfuge, c'est que dans la religion chrétienne, précisément, cette question de la sexualité a fait problème. Il y a eu toutes ces hérésies, les bogomiles, les turlupins, les adamites, que Jérôme Bosch a si bien illustré. Ces hérésies ont fait des drames et même ont été à l'origine de guerres. Tandis que dans la mystique juive, l'apparition de la Kabbale, du Zohar, n'a pas créé de drame historique. C'est ça que je voulais dire, par subterfuge. Ça veut dire que ça s'est passé en douceur, si j'ose m'exprimer ainsi.
Dans les populations archaïques, ou qu'on appelle souvent primitives, il y a un certain naturalisme, un certain vitalisme, si vous voulez, qui justifie une mystique sexuelle. Et il y a des rites de fécondité, il y a une adoration de la puissance génésique qui anime la nature. C'est une conception dont le fondement métaphysique pourrait être dit panthéiste. Cette conception entraîne, à l'échelon le plus bas des rites orgiaques et à l'échelon le plus élevé, dans une perspective également panthéiste, certaines érotiques mystiques visant à la découverte et à favoriser la découverte de l'identité suprême. C'est-à-dire que dans le prolongement de ce naturalisme, on a une conception de la mystique comme découverte de l'identité suprême de l'âme avec Dieu. Cette idée de l'identité suprême comme but de la mystique s'accommode parfaitement d'une érotique mystique et peut-être même, dans une certaine mesure, l'exige. Et puis, il y a une autre conception qui est la conception qu'on pourrait dire dualiste. Qu'on pourrait dire dualiste en ce sens qu'elle affirme l'existence de deux principes antagonistes, au cas présent, de l'esprit et de la matière. Cette conception qui témoigne souvent d'une angoisse sexuelle, laquelle entraîne aussi bien à des records d'ascétisme qu'à des pratiques aberrantes, ce dualisme peut tendre soit vers une mystique sexuelle, soit vers une sexualité mystique. Je veux dire que ce dualisme peut tendre vers une mystique sexuelle du genre de celle qu'on retrouvait dans la perspective naturaliste, c'est-à-dire qu'il s'agit de briser les tabous, et qu'il s'agit en quelque sorte de vaincre l'inférieur par l'inférieur lui-même, où on peut trouver ce que j'appellerais une sexualité mystique, c'est-à-dire finalement une négation de la sexualité en tant que telle. Dans l'un et l'autre cas, il y a évidemment manifestation anxieuse, il y a incapacité d'accepter la sexualité et, je dirais, d'exploiter la sexualité à quelque fin, que ce soit surtout à des fins élevées. Mais le dualisme essentiel n'est pas celui de l'esprit et de la matière. Le dualisme essentiel n'est pas celui de l'esprit et de la matière. Le dualisme essentiel, c'est celui de l'opposition entre Eros et Thanatos, pour reprendre des termes freudiens, quoique Freud n'ait jamais écrit Thanatos. C'est l'opposition entre la mort et la vie. C'est l'opposition entre le principe d'organisation, le principe d'union ou de réunion, et le principe de désorganisation, le principe de désordre.
Il y a le livre de Brown qui s'appelle Eros et Thanatos, que vous connaissez sûrement.
Et alors, à côté de ce naturalisme et de ce dualisme, et là nous arrivons à la tradition juive et à la Kabbale, il y a ce qu'on pourrait appeler un certain relationnisme, c'est-à-dire une conception de la vie spirituelle qui, je dirais, maintient l'amour. Et dans la mesure où elle maintient l'amour, elle est capable de récupérer la sexualité avec son côté sacré. Cette conception voit le terme le plus haut de la mystique, non pas dans une certaine expérience d'unité, mais dans la relation amoureuse de l'âme avec Dieu, la relation amoureuse du « je » et du « tu ». Je pense qu'il faut souligner l'erreur qui consiste à dire que l'expérience de l'unité est supérieure à celle de la relation amoureuse du « je » et du « tu », sous le seul prétexte que le « un » serait supérieur au « deux », que l'unité serait supérieure à la dualité. Il est évident que lorsqu'on utilise cet argument, on joue en quelque sorte sur les mots oui. et on joue sur les nombres d'une manière qui n'est,
qui
n'est pas sérieuse. En fait, il est erroné, et un mystique soufi, pour ne pas parler que des kabbalistes, disait que c'était un piège pour les orgueilleux. En effet, lorsque l'âme prend conscience de son unité, il y a danger, il y a risque pour les orgueilleux, et nous sommes tous des orgueilleux, de croire que nous sommes Dieu, de croire que cette unité est l'unité divine elle-même. C'est l'identité suprême affirmée par un certain nombre de doctrines. En fait, il s'agit d'une première étape. Et après cette prise de conscience de l'unité de l'âme, doit venir son rapport, le rapport de cette âme unifiée avec Dieu. Et cette seconde étape est véritablement le terme. Il ne faut pas inverser les termes. Le « je » et le « tu » est une relation qui est supérieure à la relation, en quelque sorte, unitaire de l'âme qui, finalement, ne prend conscience que d'elle-même. Or, cette relation entre le « je » et le « tu » qui exige que soit préservée la transcendance de Dieu, c'est précisément celle sur laquelle insiste la tradition juive et à sa suite la tradition chrétienne.
Il y a aussi un petit point, pardonnez-moi de vous interrompre, il y a un petit point, c'est que Bacan, lui, ne parle pas de Dieu, il parle de la connaissance, il parle de cette fameuse Shekina qui court à travers tout son livre et il dit textuellement ceci, excipant du fait que la Bible emploie le même mot pour désigner à la fois connaissance et les relations sexuelles, la connaissance est considérée comme ayant un caractère profondément érotique. Au reste, dans la Kabbale, cette Shekina est considérée sous un aspect tout à fait féminin. Il s'agit même de la partie femelle de Dieu, en même temps qu'une partie de Dieu lui-même. Et Bacan ajoute, c'est peut-être dans cette notion que réside tout le système de la Kabbale. Alors, quand vous parlez de Dieu à l'instant, parlez-vous de cette connaissance, de cette Shekina, et donnez-vous à ce terme le même sens que Bacan.
L'Ancien Testament, pour préserver la transcendance divine et affirmer la supériorité de cette relation entre le « je » et le « tu », entre l'âme et Dieu, a été amené à repousser très fermement les pratiques d'érotique mystique que les gens de l'Ancien Testament connaissaient bien, puisque leurs voisins de Canaan s'y adonnaient. Il y a donc dans l'Ancien Testament un éloge de la procréation, un éloge du mariage, qui entraîne non seulement une acceptation, mais un éloge de la sexualité, pourvu que cette sexualité s'exerce selon la loi. Il y a cependant une certaine gêne,
timidité, à l'égard de
incontestablement, oui. à l'égard de la sexualité, dans la mesure où on se trouve en face de la sexualité, en présence de forces dont on ne sait pas trop si elles sont toujours bonnes et si elles ne sont pas quelquefois mauvaises.
Eh bien, ma question est-ce que la Kabbale résout cet équivoque ou non?
La Kabbale prétend justement résoudre cet équivoque. Elle prétend résoudre cet équivoque, ou plus exactement, effectuer la médiation et montrer la correspondance qui existe entre tous les éléments de l'univers et entre Dieu et l'univers lui-même. Autrement dit, la Kabbale permet de réintroduire la dimension théosophique dans la mystique juive. Et en fait, toute mystique, pour être authentique, doit être une mystique théosophique. Aucune biologie ne peut comprendre la sexualité si elle ne voit pas le caractère divin de la sexualité qui se reflète dans la sexualité à ses échelons inférieurs. Et enfin, aucune théologie, aucune mystique ne peut se présenter comme une science, ni fonder une véritable ascèse si elle ne se prolonge en sophiologie. Sophiologie, c'est-à-dire science de la sophia, c'est-à-dire de la sagesse suprême, c'est-à-dire de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de la Shekhinah. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure de la connaissance. Il est bien sûr que lorsque l'Ancien Testament, et à sa suite toute la tradition juive, parle de connaissance pour désigner l'acte sexuel, l'activité sexuelle, ça n'est ni un hasard, ni une allégorie, mais c'est l'expression d'une réalité très profonde. Pour la Kabbale, la vie conjugale est à la fois le symbole et la condition de la cohésion divine par la circulation du flux divin. La sagesse, qui est l'élément mâle, et l'intelligence, qui est l'élément femelle, s'unissent par la connaissance. Et ici, connaissance prend son double sens de sexualité et d'intellectualité et de compréhension.
Vous avez dit vie conjugale.
Oui.
Est-ce qu'il y a...
Certainement.
Est-ce qu'on insiste là-dessus dans la Kabbale sur cet aspect, disons, de la conjugalité et son lien avec la sexualité?
La conjugalité est, pour la Kabbale, et dans la mesure où la Kabbale veut rester fidèle à la loi juive, voilà, une condition sine qua non. On trouve des manifestations d'érotique mystique en dehors de tout contexte conjugal, disons d'une manière illégale, pour employer le langage de l'orthodoxie, dans des hérésies juives. Par exemple, dans le milieu messianiste de Sabbataï-Zvi, ou encore chez Frank, surtout chez les Frankis, chez les disciples de Jacob Frank. Mais la Kabbale ne répudie pas la loi. La Kabbale s'inscrit au cœur de la loi. Et par conséquent, cette érotique mystique, hein, il s'agit bien dans une certaine mesure d'érotique mystique, non pas de rite canaanien de fécondité ou de rite orgiaque, mais il s'agit d'une participation non seulement à la création, ça c'est l'idée traditionnelle juive, n'est-ce pas ? L'homme doit se marier et doit procréer pour être ainsi collaborateur de Dieu, pour coopérer à la création. Pour la Kabbale, il y a beaucoup plus. L'acte conjugal sanctifié, c'est-à-dire l'acte conjugal légal, est l'instrument d'une expérience mystique. Il est à la fois le miroir et la condition, comme nous le disions tout à l'heure, de l'unité parfaite de tous les aspects de la divinité.
Il y a un point sur lequel, finalement, nous pourrions peut-être, pour finir, insister. C'est ce point fameux que soulève Lacan dans son ouvrage, qui a pour but de replacer Freud, en somme, dans la longue tradition de la mystique juive. Pour lui, cette image de la Shekhinah, cette femme qui transmet le plaisir et la connaissance, se confond avec celle de la mère suprême, tandis que cette nouvelle représentation se mêle à son tour à celle de la communauté d'Israël. Et il fait très bien saisir cela, Bacan. Les symboles tombent ici les uns dans les autres. On a l'impression que c'est pas par hasard que Freud en est revenu à utiliser tous ces symboles qu'il a puisés dans la mythologie, dans le panthéon grec. Mais on a confusément l'impression qu'il aurait pu les retrouver dans la symbolique juive, après tout. Et son Moïse et le monothéisme le dit bien, ce dernier livre posthume, qui finalement ne dissocie pas l'aventure personnelle de chaque être de l'aventure du peuple d'Israël. Que pensez-vous de ce point de vue que prend Bacan là-dessus?
Je ferai simplement deux remarques. La première, je crois que, en ce qui concerne le recours de Freud à des symboles empruntés à la mythologie grecque, plutôt qu'à des symboles empruntés à la littérature hébraïque, je crois que ça s'explique tout simplement par le fait qu'il était plus familier, voilà, de la littérature grecque qu'il n'était de la littérature hébraïque.
Voilà.
En ce qui concerne le rapport d'Israël d'une part, et de l'âme individuelle d'autre part avec Dieu, c'est un point qui est évidemment extrêmement intéressant, car on trouve dans l'Ancien Testament, et au premier chef dans le Cantique des Cantiques, l'idée d'une relation sexuelle prise comme symbole de relation amoureuse avec Dieu. Il est certain que le Cantique des Cantiques n'est pas un texte profane qui se serait trouvé projeté comme une météore dans le canon de l'Ancien Testament. Il est certain que c'est un texte qui délibérément vise à exprimer l'amour divin dans le langage de l'amour humain. Mais cet amour divin vise Israël, vise la communauté d'Israël. Il y a entre le personnage fiancé, qui est à la fois roi et pasteur du Cantique des Cantiques, et la fiancée, un rapport, une sorte de jeu de cache-cache même. C'est Dieu qui cherche Israël, et Israël qui cherche Dieu. Enfin, c'est d'abord Israël qui cherche Dieu, mais c'est aussi Dieu qui cherche Israël et qui a en quelque sorte besoin de la réponse, qui a besoin de l'amour d'Israël. Mais c'est la relation amoureuse entre Dieu et la communauté d'Israël. Et ça n'est que tardivement que ce symbolisme du Cantique des Cantiques sera appliqué à une relation mystique individuelle. Il semble par exemple que dans la tradition chrétienne, ça ne soit pas avant Origène, et Origène sans doute là s'est laissé guider, incité par son platonisme. Ce n'est pas avant Origène, semble-t-il, que on trouve une interprétation du Cantique des Cantiques en termes de mystique individuelle. La femme est le dixième attribut. Celui donc qui a femme exprime le mystère de l'unité, tandis que le célibataire en exprime la mutilation.